Myriam, notre invitée pour ce livre Itinéraire d'une survivante, Transcender les épreuves par le dépassement de soi, c'est aux éditions Favre. Myriam, bonjour.
Bonjour.
Et quand on lit le livre, on comprend mieux le titre. C'est une vie cassée, une vie blessée à la fois dans le corps et dans l'âme, et qui commence, hélas, malheureusement, dès l'enfance.
Oui, alors tout à fait, mais ce que j'aimais bien avec le titre Itinéraire d'une survivante, c'est le mot itinéraire qui suggère un chemin, une évolution, et qui montre que même si le départ était difficile, heureusement, ça n'a pas été le cas tout du long de ma vie et il y a eu des meilleurs moments.
Alors, enfant, vous étiez une enfant malade, des parents qui n'étaient pas très aimants, pas tendres. J'ai pas su comprendre pourquoi, semblaient ne pas vous aimer et penser que vous étiez malade pour les contrarier. Mais comment vous avez trouvé et puisé cette force, justement, de cet itinéraire? Parce que cet itinéraire, il a commencé dès l'enfance. Cette force, vous l'avez puisée à quel moment et où?
Je pense que le cumul d'amertume et d'injustice, au lieu de faire de la colère en moi qui m'aurait freinée en fait, où je serais restée sur de la haine, au contraire, ça m'a donné de la rage, ça m'a donné l'envie d'aller de l'avant, de me dépasser. En fait, ma force venait justement de toutes ces blessures, de toutes ces humiliations. Ça m'a donné une énergie folle d'aller en avant, de m'en sortir. Il faut dire que j'ai quand même toujours eu, enfin presque toujours eu, tout au long de ma vie, des personnes, peu nombreuses, mais j'ai eu des personnes qui m'ont guidée, qui étaient là à mes côtés et qui m'ont permis de suivre ma voie, de trouver mon chemin.
Oui, il y a effectivement des rencontres. Alors, je ne parle pas de Pilou qui a été votre compagnon et qui l'est peut-être encore aujourd'hui. On dit quelques mots de Pilou parce qu'il est tellement présent.
C'est mon chien en peluche. C'était mon grand-père qui me l'avait donné quand j'avais 8 ans. Et c'est vrai que c'était un peu mon ami imaginaire parce qu'il me réconfortait quand je pleurais la nuit, quand je me sentais mal. Et c'est le premier objet que j'ai pensé à prendre avec moi quand j'ai dû quitter le domicile de mes parents.
Quand vous quittez le domicile, il y a une autre rencontre, c'est Léna. Léna qui va, enfin, vous l'avez rencontrée avant, mais Léna, ça va être un moment où vous allez avoir une autre vision de la famille.
Oui, tout à fait. En fait, Léna, donc, c'était ma voisine. C'était l'une des trois filles et je passais le plus de temps possible chez eux parce que les parents étaient bienveillants, gentils et m'accueillaient systématiquement avec les bras grands ouverts. Et c'est grâce à eux, en fait, que j'ai remarqué que ce que je vivais dans ma famille n'était pas normal, que ça se passait pas comme ça partout. Et ça m'a donné comme une bouée de sauvetage. Ça m'a permis de retrouver quelques ressources, de puiser un peu de réserve pour aller de l'avant et pas rester dans la situation invivable dans laquelle j'étais chez mes parents.
Hélas, il y a une maladie qui courait chez vous, le syndrome, le SED, le syndrome d'Ehlers dans l'os. Alors, je ne connaissais pas, mais les maladies rares et orphelines, il y en a malheureusement beaucoup. Et quand on vous découvre cette maladie, vos parents, à nouveau, vous disent voilà, finalement, tu as eu ce que tu voulais, tu veux faire ton intéressante, et ben voilà, plutôt que de vous consoler et d'être attristé par cette maladie.
Alors, non, ça allait plus fort que ça, en fait. C'est que en plus qu'il n'y avait pas de reconnaissance de mes souffrances ou de ce que je traversais d'un point de vue médical, malgré les examens médicaux qui donnaient des résultats objectifs, donc qui expliquaient en fait ce que je ressentais. Ce qui était beaucoup plus fort que ça, c'est que au lieu de seulement dénigrer ma maladie et me dénigrer moi-même, parce qu'ils pensaient qu'ils avaient deux hypothèses en fait, soit j'étais possédée par un démon. Donc, ils voulaient que je me fasse exorciser. Et leur deuxième hypothèse, c'était que je souffrais de troubles psychiatriques. Donc, ils pensaient à un internat en asile psychiatrique et ils avertissaient le directeur du lycée, mon entourage, etc., que j'étais une folle, dangereuse, et puis qu'il fallait faire attention à moi.
Famille bourgeoise et très catholique aussi, hein.
Oui. Oui.
Vous continuez à votre chemin, si je puis dire, votre itinéraire. Vous repartez de la maison. Là aussi, un autre moment fort, c'est avec Mélanie. Puis vous reviendrez à la maison, sans bien comprendre pourquoi finalement vos parents sont prêts à vous accueillir à nouveau.
Ils m'ont jamais, ils me chassaient de la maison parce que de temps en temps, ils voulaient pas que je dorme à la maison avant quand j'habitais chez eux. Mais ils avaient aussi le désir d'avoir le contrôle. Le pouvoir sur moi. Donc, à quelque part, ça les embêtait que je parte de chez eux. surtout vu les circonstances, c'était quand même avec la protection des mineurs, avec la police. Ça faisait une tache aussi dans le tableau de la famille parfaite qu'ils essayaient de montrer sans cesse à leur entourage. J'ai jamais compris hein, pourquoi ça s'est pas bien passé en finale avec la famille à Mélanie. Et ce sont ses parents qui m'ont demandé de rentrer à la maison. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient pas me garder, mais j'ai jamais compris pourquoi.
Vos parents se montrent aussi, je dirais, infects avec les soignants, avec les gens qui sont là, qui vous aident. On vous conseille d'appeler la police, vous venez d'en parler. Vous avez compris pourquoi personne n'est vraiment complètement intervenu de façon un peu radicale à un moment ou à un autre?
Alors, je pense que de la part de ma famille élargie, c'était compliqué parce qu'ils avaient un peu un conflit de loyauté entre protéger les membres de leur famille ou me protéger moi et faire un signalement. Et je dois dire que d'un point de vue de l'extérieur, c'est toujours difficile de savoir ce qui se passe une fois que la porte elle est fermée. Maintenant, c'est faux quand même de dire que personne n'est intervenu parce que les médecins ont été les premiers à tirer la sonnette d'alarme et à me diriger dans les services spécialisés de maltraitance pour que je puisse avoir une prise en charge.
Et puis, vous poursuivez des études. Vous avez été une écolière studieuse, une collégienne studieuse, une lycéenne travailleuse. Vous avez un objectif, c'est intégrer l'université de biologie. Ça aussi, ça fait partie des éléments de cet itinéraire qui vous ont poussé en avant.
Alors, quand j'étais écolière et lycéenne et que j'étais encore chez mes parents, c'était simplement pour avoir le moins de punitions possible de leur part et pour essayer de me faire aimer par eux, puisque il fallait sans cesse que je sois parfaite. Et si j'étais deuxième de classe ou troisième de classe, j'étais punie ou j'étais la honte de la famille. Donc j'ai cherché à être aimée par mes parents en étant la meilleure personne possible. Et ensuite, quand j'ai quitté de chez mes parents et que j'ai continué à toujours vouloir donner le meilleur de moi-même, c'était peut-être parce que là, j'avais besoin de me prouver quelque chose à moi-même, de me dire que j'étais capable de faire ça, que j'étais pas nulle en fait. Parce que mes parents répétaient sans cesse que j'étais nulle, que j'étais un poids et que j'arriverais à rien.
Quelques mots sur le syndrome d'Ehlers dans l'os. Vous pouvez expliquer en quelques mots ce que c'est?
Alors, c'est une maladie du collagène. Le collagène, c'est un composant du tissu conjonctif qui donne la résistance aux organes du corps. Donc, c'est une maladie qui existe dans plusieurs types différents et chaque type a ses symptômes qui lui sont propres. Moi, j'ai le type classique. Même chez les personnes du type classique, il peut y avoir un peu une variabilité des symptômes et de la force des symptômes chez la personne. Et c'est vrai que chez moi, bah, j'ai un peu pas de bol. Je tirais le mauvais numéro à la loterie parce que j'ai énormément des organes qui sont touchés. Donc, il y a 4 ans, je me suis fait opérer 2 fois du cœur. J'ai une atteinte aux yeux, aux articulations cutanées, au système gastro-entérologique, neurologique, urologique, enfin à peu près tout quoi, sauf le cerveau.
Il y a les études, mais il y a le sport aussi. Et dans le sport, alors là, vous vous surpassez, parce que vous allez au bout du bout, au bout de j'allais dire pas de vos capacités, mais de ce que pourrait tenir votre corps. C'est l'esprit qui tient le corps, parce que ce soit le VTT, la course à pied, jusqu'à la boxe après, parler du raid, vous partez en VTT au bord de la mer, enfin, vous traversez la moitié de la France. Il faut avoir une soif de vivre, une envie de vivre, de quelque chose d'extraordinaire pour arriver à faire ça.
Oui, et en fait, dans le sport, c'est là que j'ai reçu le plus de soutien et le plus d'encouragement. Donc, ça m'a donné des ailes dans le dos qui ont permis de me dépasser. Et je pense que avec la force du mental, j'ai pu pousser vraiment mon corps au-delà de tout ce que le personnel soignant ou même moi-même se serait imaginé avec ma maladie. Parce que c'est vrai que avant que je commence à faire du sport, je trébuchais, je tombais sans cesse, j'avais pas d'équilibre, j'étais fatiguée pour un rien. J'étais avec des douleurs chroniques mais insupportables qui me réveillaient toutes les nuits. Et grâce au sport, j'ai envie de dire, mon corps a suivi mon mental. Je me suis souvent plus vue comme quelqu'un de malade. Même si je continuais à faire les allers-retours à l'hôpital, j'oubliais régulièrement ma maladie et je me poussais toujours au maximum, d'une part pour avoir la reconnaissance et le soutien que j'avais besoin de mon entourage d'un point de vue sportif, et d'autre part, pour moi, partir à la conquête de mes rêves, à la conquête de mes objectifs.
Vous avez toujours un challenge devant vous. Et vous trouvez aussi de l'aide, je pense, on va en dire quelques mots, de Diego Pazos, parce que sur ce challenge sportif, il vous a aussi été précieux.
Diego, c'était mon entraîneur de course à pied et c'est devenu mon mentor, puis mon grand frère, d'un point de vue très littéraire. C'est vraiment devenu comme mon grand frère. C'est quelqu'un qui a toujours été à mes côtés, qui a suivi mon évolution depuis maintenant peut-être 8 ans, quelque chose comme ça, 9 ans. C'est vrai que son soutien à mes côtés, ça m'a donné la stabilité, un peu l'affection qui manquait, pour pouvoir m'épanouir et avoir confiance en moi-même, oser croire en moi-même pour tracer ma propre route. Ce qui était vraiment bien avec lui, c'est que jamais il m'imposait la route à suivre, mais il était toujours à mes côtés pour et encore aujourd'hui pour me conseiller, me guider et m'encourager.
Alors vous avez pris des coups, vous en avez esquivé aussi, vous avez eu des échecs, que ce soit ou sportif ou autre, vous avez quand même pris un coup dans cette opération, un premier espoir d'une première opération du cœur, et puis après, aussitôt une envie de course à pied, de repartir comme si de rien n'était, et puis malheureusement, une deuxième opération, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure. Ça fait partie de ce que vous pouvez considérer comme des échecs qui vous ont rendu plus fort ou simplement des aléas.
C'est pas des échecs, c'est des expériences. Parce que chacune de ces épreuves m'a apporté quelque chose, m'a permis de grandir, d'évoluer. Et souvent on me demande d'où est-ce que tu tires ta force de faire tout ça. Moi jamais j'y arriverai, jamais j'oserais tout quitter pour partir, par exemple. Et en fait, c'est ces épreuves, c'est ces moments où j'avais plus rien, où j'ai dû lutter pour reconstruire, qui m'ont permis à moi de me rendre compte que j'avais de la valeur, que j'avais des capacités. Et quand j'en ai besoin encore aujourd'hui parce que j'ai des choses difficiles à affronter, ben, je vais puiser là-dedans. Je me dis, j'ai déjà réussi à traverser des choses difficiles. Je sais un peu comment le processus se passe. Alors, je m'accroche. Je mets toute mon énergie, toutes mes tripes et ça va bien se passer.
Et les voyages là-dedans, je pense à Madagascar par exemple, pourquoi partir si loin et pourquoi envie de voir des gens plus malheureux que soi?
Madagascar, l'idée c'était de rencontrer des gens qui vivaient complètement différemment de chez nous. Parce que, étant donné mon enfance, j'avais une vision de la vie qui était encore très étroite, qui n'était pas complète, je trouvais, parce qu'elle était simplement l'idée que mes parents m'avaient donnée. J'avais pas été confrontée à différents points de vue, différentes manières de penser. Donc, je voulais partir à l'autre bout du monde pour rencontrer des personnes qui avaient un vécu totalement différent, qui avaient une manière de vivre totalement différente aussi, et qui pouvait m'apporter des choses à moi-même qui me permettent de continuer sur mon chemin de vie. En fait, je partais à la recherche de réponses à mes questions. Pourquoi j'avais eu tant d'épreuves dans ma vie? Qu'est-ce que ça signifiait? Et des questions existentielles comme ça.
Oui, parce que le livre se termine, vous êtes au Pakistan, hein, je crois.
Oui.
C'est la même démarche.
La même démarche. C'était vraiment partir en quête de moi-même et puis je cherchais des réponses par rapport à tous mes plans, que ce soit physique, mental, émotionnel, spirituel. Donc j'ai beaucoup vadrouillé autour du monde, loin des hôtels de luxe et des voyages organisés, mais vraiment à la rencontre des personnes sur ma route pour retirer le maximum d'enseignements de ces gens. Et je m'étais pas trompée en me disant que les personnes les plus pauvres et les plus démunies m'amèneraient probablement le plus de réponses et le plus de nouveaux chemins de vie. Et c'est vrai que ce sont eux qui m'ont apporté le plus de toutes les expériences que j'ai pu faire.
Quand vous avez écrit, posé le dernier mot de ce livre, le mot fin, vous avez pensé que vous avez fait la paix avec vous, avec votre passé. Vous avez envie de transmettre en disant, bah voilà, si ça peut aider quelqu'un d'autre à se découvrir aussi, pourquoi pas? Ou c'est tout simplement aussi un partage d'une expérience, d'une vie, d'un itinéraire?
Oui, dans le mot de la fin, je fais la paix avec moi petite, avec le fait que j'ai l'impression que j'étais jamais assez bien, que j'étais jamais assez forte. C'était un beau moment au Pakistan parce que je me rendais compte vraiment fortement à l'intérieur de moi que toutes les expériences et toutes les épreuves que j'avais traversées étaient celles qui m'avait rendue si forte, qui m'avait rendue curieuse de tout, qui m'avait rendue peut-être plus ouverte, et qui m'avait construite. Et je ressentais de la gratitude pour tous les moments difficiles que j'avais vécus, et je me ressentais avec une paix intérieure vraiment agréable et que j'avais jamais connue auparavant. Et ce livre, je me suis dit que pour d'autres personnes qui traversaient des épreuves, même si c'était des épreuves différentes, de se dire que même quand on n'a plus rien, quand on n'a plus d'argent, plus de maison, plus de famille, que tout semble perdu, désespéré, si moi j'ai réussi, elles peuvent réussir aussi. Peut-être dans des cas moins extrêmes, pour il y a beaucoup de personnes qui ont des rêves qu'elles n'osent pas réaliser parce qu'elles ont peur de quitter leur travail ou de partir dans l'inconnu. Et j'avais envie de leur dire, mais vous n'avez qu'une vie. Alors allez chercher cette force dans vos tripes, croyez en vous, n'ayez pas peur, parce qu'au final, une fois qu'on se lance dans quelque chose, tout apparaît sur le chemin comme par magie. Et c'est beaucoup plus facile que ce qu'on s'imagine, en fait.
Alors, sur la couverture du livre, vous tenez par le cou. Alors, sans bosse, je ne sais pas si c'est un dromadaire ou un chameau, mais les animaux ont aussi une importance dans cet itinéraire.
Oui, alors c'est un dromadaire, et les animaux m'ont un peu appris l'amour, sans attente, désintéressé, et le non-jugement. Parce que, étant donné que j'avais beaucoup de mauvaises expériences avec les êtres humains, je les fuyais et j'étais extrêmement méfiante. Grâce aux animaux, j'ai retrouvé un nouvel équilibre parce que je me sentais acceptée telle que j'étais. Et j'ai découvert un nouvel amour qui était sans peur, sans angoisse. Donc ils ont vraiment eu un rôle important pour ma construction personnelle aussi.
Merci Myriam de nous avoir parlé de vous à travers cette entrevue et puis ce livre Itinéraire d'une survivante, Transcender les épreuves par le dépassement de soi. C'est publié aux éditions Favre. Vraiment un bouquin, quand on le lit, qui est une leçon de vie, tout simplement, et puis mais sans donner de leçons. Je crois que c'est ça qui est encore le plus important.
Merci infiniment, avec plaisir.